Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, il y a tout juste 100 ans, en août 1907, en Angleterre, un ancien officier de l'armée britannique, Robert Baden-Powell, entraînait une vingtaine de jeunes garçons des banlieues et faubourgs de Londres campés sur une île de la Manche, l'île Brownsea. C'est le premier camp scout, le scoutisme est né. Baden-Powell a des idées précises sur la manière de donner à ses enfants une éducation par la vie en équipe et en plein air, le jeu et la responsabilité. La progression personnelle, c'est la méthode scout pratiquée aujourd'hui par plus de 30 millions de jeunes dans le monde entier. 30 millions de jeunes qui tous, en cette année 2007, vont célébrer le centenaire du scoutisme. Et pour évoquer ce centenaire, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, tous deux auteurs de livres récents consacrés au scoutisme. Le père Jean-Marie Malégui, aumônier général des scouts et guides de France, auteur de « Naître à la parole » aux éditions Presse d'Île-de-France, et Marine Digabel, journaliste, auteur de « Scout, une piste pour grandir » aux Presses de la Renaissance. Alors, père Malégui, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation pour nous éclairer un peu sur ce centenaire du scoutisme. Et si ce scoutisme est né en Angleterre en 1907, il arrive en France un petit peu plus tard, je crois.
Oui, mais assez rapidement.
Assez rapidement.
Dès 1911, on le voit apparaître par les éclaireurs et éclaireuses de France. Et puis, dans le cadre du mouvement catholique, eh bien, c'est à Nice, c'est à Saint-Honoré-des-Laux, mais aussi à Moucheron, dans le Nord, que des initiatives sont prises par plusieurs acteurs qui vont se fédérer et créer le scoutisme, le mouvement catholique de scoutisme des scouts de France en 1920. C'est le chanoine Cornette, c'est le Percevin qui a tant marqué aussi les mouvements des scouts de France et guides de France. Et c'est aussi le général Maubluy, et tous ensemble ont permis aussi à des jeunes en France de pouvoir vivre cette aventure. Bien sûr, ils ont dû se faire reconnaître à l'intérieur de l'Église. Ça n'a pas toujours été si facile que ça.
Et à l'intérieur de l'État, parce que 1911, on est encore dans la mouvance de 1905.
Et même la fleur de lys, qui est l'emblème choisi par Baden-Powell en 1907, les éclaireurs et éclaireuses laïques ne peuvent pas la prendre parce qu'elle est trop référente à, justement, un signe royaliste. Et on voit bien que c'est dans un contexte très particulier de la France que le scoutisme est né.
Absolument. Alors, Marine Digabel, bonjour et merci
bonjour.
À vous aussi d'être venue nous présenter votre livre. Donc, Scout, une piste pour grandir. Marine, 100 ans, c'est un bel âge hein, pour un mouvement de jeunes. Mais est-ce que ce mouvement est un peu ankylosé ou est-ce qu'il est toujours en expansion ?
Alors, en France, aujourd'hui, on est sur des chiffres stables, on va dire. C'est vrai qu'il y a eu plus de scouts à une époque qu'aujourd'hui. Mais s'il y a eu une baisse ces dernières années, elle paraît enrayée. À l'échelle mondiale, par contre, c'est un mouvement très, très dynamique qui a doublé ses effectifs en 20 ans. Donc, c'est quand même une progression tout à fait remarquable. Et je pense que c'est en partie parce que l'intuition de départ correspond tout à fait aux attentes des jeunes.
Mais peut-être que c'est pas parce qu'on est dans un pays qu'il y a du scoutisme. Est-ce qu'il y a du scoutisme dans tous les pays ?
Quasiment, dans 216 pays.
Dans 216 pays. Mais est-ce qu'il y a un organisme qui veille tout de même à ce que ce ne soit pas un embrigadement des jeunes trop politisés, par exemple ?
Deux organismes, l'Organisation mondiale du scoutisme et l'Association mondiale des guides et des éclaireuses. Donc la première association s'occupe plutôt des scouts garçons et des associations mixtes. Et la deuxième est plus préoccupée des associations de filles, puisque dans de nombreux pays, il s'agit d'associations séparées. Et en France, on voit les deux coexister, en fait.
Donc, dès le début, père Malégui, le scoutisme a eu cette dimension mondiale, internationale et même fraternelle, si on peut dire.
Oui, très forte, parce que je crois que Baden-Powell est habité par le désir de la fraternité mondiale et est habité aussi la dimension internationale. Et en Amérique, et bien sûr dans toute l'Europe, le scoutisme va naître de manière assez rapide. Et les premiers rassemblements de scoutisme dès les années 1910-1920 rassemblent énormément de jeunes. Je crois qu'ils se sont retrouvés 10 000 très très rapidement en Angleterre, mais aussi dans tous les pays. On va voir le scoutisme naître parce que, comme vient de le dire Marine Digabel, c'est une proposition éducative qui rencontre l'appel d'une société qui se dit qu'est-ce qu'on peut proposer aux jeunes pour être demain des citoyens dont la société a besoin.
Alors, Père Malégui, vous, vous êtes aumônier, vous êtes donc prêtre dans ce mouvement, oui. Les scouts et guides de France. Est-ce que le scoutisme considère comme important la dimension spirituelle chez les jeunes?
Oui, elle est très importante et même on aime à raconter la réponse de Baden-Powell lorsqu'on lui demande « Mais quelle est la place de la religion dans la méthode éducative que vous proposez ? Comment est-ce qu'elle y rentre ?» Et il dit « Elle n'y rentre pas, elle y est pleinement, elle en est le fondement, elle est au cœur. » Et la dimension spirituelle pour Baden-Powell est au cœur du scoutisme. C'est pas un sixième doigt de la main, c'est un des doigts de la main. Mais la dimension spirituelle, pour Baden-Powell, elle conduit au sens de la vie, à ce qui est transcendant et à la relation à Dieu, mais sans nommer le Dieu. Baden-Powell n'a pas dit le scoutisme est anglican, même s'il était anglican. Il a laissé cette liberté à chaque référent religieux de pouvoir recevoir sa proposition éducative. Et c'est la chance du scoutisme de s'être inculturé, on peut dire, dans toutes les religions du monde.
Alors, dans votre ouvrage, Père Jean-Marie Malégui, « Naître à la parole, la proposition de la foi chez les scouts et guides de France », je vois que vous utilisez l'expression « proposition de la foi » et non pas « éducation religieuse » et encore moins « catéchisme ». C'est-à-dire que « proposition de la foi », ça a un sens particulier pour vous ?
Oui, le sens de cette expression « proposition de la foi », je l'emprunte à la lettre des évêques de France de 1996, qui a tant marqué le catholicisme en France. La foi doit être d'abord proposée. Jésus dit toujours dans l'évangile « si tu veux ». Et la foi est de l'ordre d'une proposition qui demande une réponse et qui va ensuite s'inscrire aussi dans une découverte du contenu de la foi, avec un côté de savoir, d'enseignement. Mais le scoutisme, justement, est le lieu où le jeune va pouvoir faire l'expérience que la parole de l'Évangile peut le rejoindre. Et le titre de ce livre est de dire ben, « Essayons de naître à cette parole que Dieu nous donne, mais par l'expérience et la pratique du scoutisme ».
Alors, page 40, justement, de votre livre « Naître à la parole », je lis et je cite « La proposition de la foi chez les scouts et guides de France est de l'ordre de l'expérience et non de l'instruction ». Donc, il n'y a pas d'instruction au sens dogmatique, mais tout de même, on apprend par le jeu, par l'expérience, par les gestes.
Voilà, il ne faut pas opposer. Mais si je distingue, ce n'est pas pour opposer, mais c'est pour mieux signifier directement la spécificité du scoutisme, qui est le lieu de l'expérience, du jeu par excellence. Et lorsque un jeune va faire l'expérience du scoutisme, comme vous le disiez, de la vie d'équipe, de la nature, de la loi et de la promesse, il va s'ouvrir à une dimension aussi spirituelle de sa vie qui, pour nous, chrétiens, va se nourrir aussi de tout l'apport de la révélation chrétienne. Mais pour moi, quand je dis l'expérience et la parole, c'est pour relier, vous savez, le premier livre de la Genèse dans la Bible, quand Dieu parle, ça se passe. Mais dans l'Évangile, quand Dieu réalise quelque chose, ça parle. Eh bien, c'est cette alliance parole et acte que je crois que le scoutisme peut offrir à un jeune quand il en fait l'expérience.
Alors, ces expériences scout, Marine Digabel, vous en avez beaucoup parlé dans votre ouvrage, « Scout, une piste pour grandir ». Vous avez calculé, enfin c'est le chiffre que vous citez dans votre livre, que le scoutisme a au fond été pratiqué depuis 100 ans qu'il existe par 500 millions de garçons et filles. C'est un chiffre absolument énorme. Quelles sont les valeurs que les gens qui pratiquent le scoutisme reconnaissent à ce mouvement ou à cette pédagogie, si on peut dire ?
Je crois que deux choses arrivent en tête du hit parade des valeurs transmises par le scoutisme. C'est d'abord le sens de l'autre, de la solidarité. Beaucoup de célébrités, je pense notamment à Jean-Jacques Goldman ou Jérôme Bonaldi qui a signé la préface de mon livre, rappellent que c'est grâce au scoutisme qu'ils ont appris la vie en équipe et qu'ils ont appris à ce que les autres comptent sur eux et inversement à pouvoir compter sur eux. Donc ça apparaît manifestement comme quelque chose de très fort. D'anciens scouts moins connus trouvent que dans leur vie professionnelle, travailler avec des anciens scouts, c'est justement travailler avec des gens sur qui on peut compter. Donc c'est quelque chose d'important. Et puis aussi la fraternité. Tous les scouts qui ont participé à des rassemblements internationaux ont vraiment ce même élan quand ils en parlent, hein, de dire que c'est finalement le seul lieu où ils ont pu toucher du doigt cette fraternité mondiale et apercevoir par exemple toutes les ethnies, je dirais, d'Afrique du Sud travailler ensemble, main dans la main, ou des Israéliens et des Palestiniens, et ça les a vraiment beaucoup, beaucoup marqués. Hein.
et reconstruire dans certains pays de l'Est, par exemple, la fraternité, là où les gens s'étaient déchirés?
Tout à fait, c'est vrai que c'est un pari qui n'est pas évident pour les anciens pays de l'Est, puisqu'il y a des tentatives de récupération assez nombreuses, mais il y a un véritable élan, et les scouts et guides de France aujourd'hui appuient des programmes de formation en Roumanie, par exemple. Donc c'est un bon exemple de coopération entre deux pays. Les scouts et guides de France sont aussi présents au Liban. Donc on voit que c'est la solidarité est toujours, c'est pas juste une question de principe, hein, ça se manifeste vraiment dans les faits.
Pour continuer à parler du scoutisme, on marque une petite pause et on se retrouve dans un petit instant. L'espace est lancé sur le site de Canal Académie, l'espace Apprendre, un espace d'écoute active pour vous, professeurs et enseignants, élèves et étudiants, avec des suggestions d'activités pédagogiques à partir d'extraits d'émissions. Un espace d'auto-formation à distance, ouvert à tous, téléchargeable facilement et gratuitement avec l'espace Apprendre de Canal Académie, établi en partenariat avec le Cavilab. Vous allez découvrir le plaisir d'apprendre. Retour dans notre studio où aujourd'hui nous parlons du scoutisme avec le père Jean-Marie Malégis, aumônier général des scouts et guides de France, et Marine Digabel, journaliste et tous deux auteurs d'ouvrages consacrés au scoutisme, puisque cette année 2007, le scoutisme fête son centenaire, les 100 ans de sa création par Baden-Powell. Alors, père Jean-Marie Malégis, Naître à la parole, l'ouvrage que vous proposez justement sur la foi et la dimension spirituelle, est-ce que c'est un ouvrage pratique que les gens qui ont envie de transmettre la foi chrétienne aux jeunes peuvent utiliser?
C'est un livre qui est né d'une animation avec des jeunes de 18 à 30 ans qui sont les premiers éducateurs des plus jeunes et aussi éducateurs dans la dimension spirituelle et chrétienne. Et souvent, ils me demandaient, mais comment doit-on s'y prendre? Comment est-ce qu'on peut, nous, arriver à être témoins de la dimension spirituelle et chrétienne que porte le scoutisme? Et alors, ce livre se veut répondre à leurs questions en disant, mais n'ayez pas peur, c'est possible. La première partie est plus particulièrement, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais une sorte d'intelligence de cette démarche. Oui. Regardez, ça a du sens, ça tient la route. Déployez votre scoutisme, la tente du scoutisme, vous entrerez dans la cathédrale de Dieu.
C'est un peu ma couverture. Mais vous avez un langage,
c'est mon image. Non, mais qui... et la deuxième partie est beaucoup plus un savoir-faire. Alors oui, les aumôniers, les éducateurs, les chefs et cheftaines que je rencontre me disent, dans la deuxième partie, on trouve des propositions d'animation au cours d'un stage de formation ou lorsque on va préparer des jeunes à une confirmation, lorsque aussi on va animer un temps de foi à l'intérieur d'un week-end. Donc le livre, si vous voulez, a deux volets. Il est au service du bien fondé de la proposition de la foi chez Scouts et Guides de France, et il est au service aussi d'une pratique que chacun peut mettre en œuvre. Mais comme j'aime à le dire, le meilleur outil, c'est celui qu'on se fabrique soi-même.
Voilà.
On se fabrique soi-même. C'est vraiment, je crois, la loi des compagnons.
Alors, vous avez rappelé, père Jean-Marie Malégis, que, en effet, le scoutisme, c'est l'éducation de jeunes un peu aînés, si je puis dire, vous disiez 18-30 ans.
Le grand frère, dit
voilà, disons, et que les plus jeunes se font accompagner par des gens plus âgés. Mais tout ce monde est très, très jeune, finalement. C'est le principe même du scoutisme. Et vous, Marine Digabel, quel est l'âge où on pratique le scoutisme alors? Parce qu'il y a plusieurs sortes d'âges, plusieurs tranches d'âge.
Tous les âges. On peut commencer dès 6 ans dans certaines associations, la plupart du temps 8 ans où on est louveteau. Alors on a en France beaucoup d'associations, 9 reconnues par le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui ont chacune leurs appellations et leur découpage chronologique. Mais grosso modo, on a 4 tranches d'âge, hein, donc 8-12 ans, 11-15 ans, 14-17, et puis ensuite parfois une branche aînée, ou alors les jeunes sont invités à encadrer des plus jeunes des 18 ans, en fait. Et donc effectivement, Baden-Powell parlait du grand frère. Aujourd'hui, les personnes qui encadrent sont formées. C'est des formations régulées par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc c'est toujours dans un souci de sécurité pour les enfants, évidemment.
Oui, donc on fond l'image qu'on a du jeune scout qui a 12 ans, 14 ans. Il y a aussi des jeunes beaucoup plus âgés qui pratiquent le scoutisme encore, enfin qui sont en tout cas dans cette démarche de développement personnel pour eux-mêmes, même quand on est étudiant.
Même quand on est étudiant, on peut être compagnon, par exemple chez les Scouts et Guides de France, et s'engager avec d'autres jeunes de son âge sur un projet de 2 ans suivi d'une année de service, où on peut choisir d'encadrer des plus jeunes que soi. Alors c'est vrai que quand on a 18 ou 19 ans, on va plutôt encadrer des enfants, et puis la maturité venant, c'est plus facile d'encadrer des adolescents de 14 à 17 ans par exemple. Et je dirais que même après, les adultes peuvent aussi s'engager en étant responsables de groupe, puisque les tranches d'âge sont regroupées dans ce qu'on appelle un groupe au niveau local, et à chaque échelon incombe un certain niveau de responsabilité pour faire tourner la machine. Donc les responsables de groupe apporteront un soutien logistique et puis aussi une épaule accueillante pour les chefs qui sont courageux mais jeunes quand même et qui peuvent avoir besoin d'être soutenus à certains moments.
Père Jean-Marie Malégui, pour avoir une idée à peu près du nombre de groupes dont parle Marine, justement, c'est-à-dire de gens qui, sur le terrain, proposent les scouts, la proposition scout et guide,
oui,
combien en France ?
Je pense que dans l'association à laquelle je participe, c'est à peu près entre 900 et 1000, mais avec l'ensemble des autres mouvements, il faut peut-être doubler. Voilà, il y a près de 2000 groupes locaux de propositions du scoutisme. Et ce qui est formidable, c'est que le scoutisme permet aussi l'intergénérationnel. Il y a vraiment le jeune entre 8 et 20 ans qui est, pourrait-on dire, accompagné, éduqué, mais accompagné, et parce qu'il est son premier éducateur, dit Baden-Powell, mais il a besoin d'un aîné qui, ex-Doucaré, qui le conduit hors de lui-même, c'est ça, éduquer, qui va l'aider à grandir. Mais après, on va rencontrer, et pour ma part, je rencontre dans le mouvement surtout des jeunes entre 30, 40 ans, et des adultes plus aînés jusqu'à 50, 60 ans. Le week-end prochain, je me retrouve avec 60 personnes qui sont animateurs de la vie spirituelle et chrétienne, et des aumôniers, prêtres, et des laïcs, des religieux. Bien sûr, ils ont entre 25 et 60 ans, et c'est passionnant.
Donc vous voulez dire que quand on est adulte, par exemple, on peut très bien considérer que c'est un service bénévole que l'on rend à la société en s'occupant d'un groupe scout, en s'engageant à quelque niveau que ce soit, même si on ne s'occupe pas des enfants particulièrement.
C'est capital. Je crois que la société aujourd'hui doit valoriser son bénévolat. Beaucoup d'hommes et de femmes accomplissent vraiment un service civil, citoyen, et puis ecclésial, bien sûr, pour nous, dans le lieu d'un mouvement catholique de scoutisme, mais auprès des plus jeunes. Et ce service, je vous assure, il est vraiment un service au monde, parce qu'il a un service sur ceux qui seront le monde de demain, ceux qui vont prendre en charge aussi le monde de demain dans les années, les décennies qui viennent.
Je crois que le caractère intergénérationnel est important, quelque chose qui compte aussi beaucoup dans le scoutisme, c'est qu'on se retrouve avec des gens de tous les horizons et que voilà, on fait ensemble. Donc c'est vraiment une vraie richesse et beaucoup de gens reconnaissent qu'ils ont finalement noué des liens d'amitié qu'ils n'auraient pas noués autrement, justement parce que dans la vie non-scout, on est plus prisonnier de barrières sociales et le scoutisme peut apporter une certaine mixité sociale.
Alors concrètement, Marine Digabel, dans votre livre, il y a tout un chapitre qui s'appelle « La vie scout ». Alors la vie scout, finalement, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est scout ?
C'est vrai que c'est un livre que j'ai rédigé pour les gens qui ont peut-être des a priori sur le scoutisme, mais qui n'y connaissent pas grand-chose. Donc j'avais à cœur d'être très pratique.
Et ça commence d'ailleurs par ce que le scoutisme n'est pas. Alors vous éliminez qu'est-ce qu'il n'est pas. Alors qu'est-ce qu'il n'est pas finalement ?
Alors il n'est pas une instruction militaire, il n'est pas un endoctrinement. Ce n'est pas une œuvre de bienfaisance dirigée par des gens du monde pour le bien des enfants pauvres. Ce n'est pas une école avec un plan d'études et des programmes d'examen bien définis. Ce n'est pas une troupe d'officiers et de soldats destinée à donner de la virilité aux garçons et aux filles à coups d'exercice militaire. Ce n'est pas une agence de petits messagers pour la commodité du public. Ce n'est pas une exposition où des résultats superficiels sont obtenus grâce à la distribution d'insignes, de mérites ou de médailles. Tout cela viendrait de l'extérieur, tandis que l'éducation scout vient tout entière du dedans.
Voilà, voilà comment Baden-Powell, fondateur du scoutisme il y a 100 ans, rappelait ce qu'il ne voulait pas faire, en tout cas.
Tout à fait.
Revenons à la vie scout. Donc, votre livre propose un petit peu, pour les gens qui voudraient savoir, au fond, à quoi ça sert de mettre mon enfant chez les scouts, ils trouvent dans votre livre la réponse parce que vous entrez dans les détails de cette vie scout.
Tout à fait. Alors, il y a deux façons de présenter la vie scout. Soit on aborde l'angle des activités au cours de l'année. Donc, très succinctement, on peut dire que ça se passe le week-end, le samedi ou le dimanche ou le week-end entier, et puis qu'il y a un grand camp d'été qui peut durer de 1 à 3 semaines, voire un mois selon l'âge. Je crois qu'il est plus intéressant de se concentrer sur ce qui fonde la méthode scout. On peut prendre deux exemples. D'abord, le jeu des conseils, c'est-à-dire que les jeunes sont organisés en équipe de 6 à 8 personnes à peu près, en équipe de pairs, au sein desquels chacun peut prendre la parole, et c'est vraiment un ressort essentiel. Donc en camp, chaque jour, il y a un temps réservé à ce conseil, justement.
Ce sont les jeunes qui décident.
Voilà,
alors, c'est une démocratie vraiment démocrate.
Voilà, les jeunes font le bilan de leur journée et sont invités à essayer de trouver des moyens d'améliorer la situation. Ils sont invités à faire des propositions aussi à leurs encadrants pour améliorer les choses. Et ils sont aussi invités à féliciter ce qui s'est bien passé. Et puis la deuxième chose dont on peut parler, c'est l'engagement par la promesse, hein, puisque après avoir participé à la vie de l'unité pendant l'année scolaire ou voire un peu plus, le jeune peut s'engager devant ses pairs toujours à faire de son mieux pour respecter une loi qui... Bon, alors ça dépend des âges, hein, c'est toujours
adapté. La loi est adaptée en fonction des âges.
Tout à fait. Donc pour le louveteau de 8 à 12 ans, on retrouvera les copains, avoir le sens de l'hygiène, hein, donc se laver tout simplement. C'est toujours très pragmatique le scoutisme. Hein. On s'enracine vraiment dans le vécu, dans le concret. Et c'est aussi une des richesses du scoutisme de parler un autre langage que celui de l'école. Hein. On n'est pas du tout dans un langage académique. Au contraire, on est dans le vécu, hein, et on s'appuie toujours sur le vécu des jeunes pour les amener à faire parler de ce qui leur convient, de ce qui leur convient moins bien et des projets qu'ils aimeraient mener à bien.
Alors, dans les demandes des jeunes, Père Malégui, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui demandent justement, j'allais dire, à mieux connaître Jésus-Christ? La religion, puisque on parle de la religion chrétienne, puisque c'est celle que vous pratiquez, mais ça pourrait être la religion pour d'autres religions.
Dans le cadre du Saint-Donaire, nous organisons les manifestations avec nos frères et éclaireurs israélites, mais aussi musulmans, et les autres mouvements catholiques de scoutisme, comme les guides des scouts d'Europe ou les scouts unitaires, et nous travaillons ensemble à ces manifestations. Et dans ces différents mouvements confessionnels, je crois que le jeune... par le scoutisme, lorsqu'il le vit pleinement, et c'est pour ça que je suis toujours très exigeant sur la qualité du scoutisme pour qu'il y ait de l'animation spirituelle, les jeunes vont découvrir que leur vie a un sens et qu'ils peuvent eux aussi partir à l'aventure, et bien peut-être sur les chemins de Jésus en Galilée, et là, ils nous posent des questions, mais qui est donc ce Jésus? Est-ce que je peux lui faire confiance? Et est-ce que aussi je peux construire ma vie sur sa parole? Et c'est au cœur de l'expérience que le jeune va entendre une réponse et puis recevoir aussi sa propre interrogation. Et nous, dans le mouvement, nous accompagnons le jeune aussi au cœur de son expérience pour, comme disait Marie Ligabel, il puisse la relire à l'intérieur de ses conseils d'équipe, mais aussi avec ses éducateurs. Et là, il va aller d'étape en étape. Et pour nous, chaque âge a un peu son territoire spirituel. J'aime à dire, vous avez 8-12 ans, allez marcher, courir, aller à la montagne, à la plaine, comme Jésus en Galilée. Vous avez 11-14 ans, regardez tous ces témoins de la foi, depuis Abraham jusqu'à Saint-Pierre, comment ils ont marché, comme Saint-Paul, ils ont traversé les terres et les mers. Vous êtes aussi des 17-21 ans, allez d'Emmaüs à la Pentecôte. Chacun a droit peut-être à un territoire spirituel. Et c'est souvent au cœur des stages de formation, cœur des temps de réflexion aussi, mais dans la nature, que le jeune vient nous poser la question. Mais pour moi, c'est quoi croire? Et pour toi, dans la vie, Dieu, quelle importance a-t-il? Ces questions, on les reçoit au cœur du scoutisme.
Alors, avant de nous quitter, Marine Digabel, peut-être un petit mot sur justement ces célébrations du centenaire en 2007. Que va-t-il se passer en France et dans le monde?
Beaucoup de choses, puisque en France, tous les groupes sont invités à organiser des événements localement. Les deux dates les plus médiatiques seront le 1er juillet avec des événements partout en France et le 1er août où tous les scouts et anciens scouts sont appelés à renouveler leurs promesses. Il y a également un colloque en mars.
22 mars, voilà, au Conseil économique et social sur le thème « Scoutisme, acteur du vivre ensemble ».
Enfin, je pense qu'on peut signaler les dons pour la paix. Donc, c'est une initiative de l'Organisation mondiale du scoutisme où toutes les unités locales sont invitées à faire un geste de solidarité, enfin pour décrire les choses assez succinctement. Donc, un geste ouvert sur la communauté.
Très bien. Donc, la paix, ça reste toujours au cœur du scoutisme. Baden-Powell en a beaucoup parlé, en effet.
Mais je crois que c'est formidable de dire à chaque jeune dans le monde, tu es scout, tu es guide, tu dois poser cette année un acte en faveur de la paix. À toi de le trouver, à toi d'être astucieux. Vous savez, la bonne action, la fameuse BA du scoutisme. Pour Baden-Powell, c'est un bon tour qu'il faut faire à quelqu'un.
Ah bon ?
Trouve un peu le bon tour que tu veux faire à quelqu'un pour qu'il soit heureux, pour qu'il sourie, pour qu'il ait eu du plaisir. Et je crois... les vrais gestes de paix, c'est ceux qui rendent les autres heureux.
Alors, j'espère que, Père Jean-Marie Balégui, vous aurez posé un geste de paix pour nous rendre heureux en écoutant cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, « Naître à la parole, la proposition de la foi chez les scouts et guides de France ». C'est paru aux éditions Presse d'Île-de-France. Et Marine Digabel, vous, votre livre « Scout, une piste pour grandir » est paru aux éditions Presse de la Renaissance. Donc, c'est deux maisons de la presse, il ne faut pas se tromper. Mais ce sont deux grands éditeurs donc, que vous trouverez facilement en les commandant chez votre libraire. Et puis, à bientôt. Merci, merci. Marine Digabel. Merci, Père Malégui.
Merci beaucoup d'avoir accueilli.